Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Il n'y a pratiquement plus de mystère sur la loi concernant le pouvoir d'achat. Si on cumule toutes les informations de presse, dont certaines d'ores et déjà confirmées par Bercy, on a à peu près la photographie de ce qui va se passer donc très prochainement. Elle doit passer en Conseil des ministres le 6 juillet. Je vais vous donner les dernières infos dont on dispose. Mais ce qui est certain, c'est que ça va coûter beaucoup d'argent. Et ça n'est pas chiffré pour l'instant. Et Bruno Le Maire était l'invité de BFM TV ce matin. Il vient de déclarer que la cote d'alerte était atteinte, touchée sur les finances publiques. Bon, Emmanuel Macron nous avait dit pas d'impôts en plus, ni de dettes en plus. C'était lors de ses 8 minutes à la télévision. Bon. En tout cas, l'INSEE s'attend à une inflation qui va accélérer, peut-être flirter avec les 7% au mois de septembre, et tente un chiffrage de la perte de pouvoir d'achat des ménages en 2022. Donc chiffrage à 1% de recul du pouvoir d'achat. On évoquerait également cette tribune assez inattendue de la part des trois principaux patrons des groupes énergétiques français qui ressuscitent clairement la chasse au gaspillage. Patron d'Engie, d'EDF, de Total Energy, dans les colonnes du JDD, l'effort doit être immédiat, il doit être collectif, et il doit être massif, écrivent-ils, au moment où on apprend que la centrale de Saint-Avold en Moselle, centrale à charbon, va reprendre du service dès l'hiver prochain. Et puisque vraiment on peut imaginer que la population va collectivement changer de comportement, baisser sa consommation d'énergie si les prix ne bougent pas, si on continue à subventionner l'ensemble des prix, puisque là le signal prix existe de moins en moins, ou en tout cas il est mis entre parenthèses. Et puis on réagira à cette angoisse des marchés, principalement aux États-Unis. Ils commencent à ne plus avoir à peu près aucun doute sur le fait que la Fed va appuyer sur l'accélérateur du durcissement de politique monétaire, jusqu'à conduire les États-Unis, l'économie américaine en récession. Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé Les Entrepreneurs pour la République. C'est une place de marché Internet où il y a des solutions d'entreprise face aux enjeux du pays et aux besoins des collectivités.
Et même pour baisser la consommation énergétique, ça sera dans les sujets.
Ah bon, vous avez déjà des...
Bien sûr.
Il y a déjà des solutions.
Ben écoutez, dès qu'on évoque le sujet,
On se demandait ce matin avec Jean-Marc Daniel si on n'allait pas faire comme par le passé, supprimer les grands prix automobiles, par exemple.
Non, mais alors peut-être, mais bon, écoutez, j'ai une solution qui est extraordinaire. Si vous voulez que je l'évoque maintenant,
je fais le tour de table et vous m'en dites un mot.
Avec joie.
Philippe Martin, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Sciences Po et président du Conseil d'analyse économique, également membre du Cercle des économistes. Xavier Rago, bonjour.
Bonjour.
Président de l'OFCE, vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Bon, je vous donne les dernières infos. Alors oui, on va évoquer tout à l'heure. Gardez en tête l'histoire, Léonidas. Voilà, bouclier loyer. Hein. Pas de gel de loyer, mais un bouclier, une hausse limitée à 3,5%. Les APL, plus 3,5% avec 3 mois d'avance. 4% de hausse des pensions de retraite, du minimum vieillesse, du RSA, de la prime d'activité, de l'allocation adulte handicapé, des allocations familiales. Également, même combat pour les indemnités liées aux accidents du travail, pour la complémentaire santé solidaire, pour les minima versés par Pôle emploi, pour le contrat engagement jeune, des incitations pour plus de participation d'intéressement dans les entreprises et une pression forte sur les branches professionnelles pour qu'elles se mettent en conformité avec des minima sociaux qui soient alignés sur le salaire minimum. Qu'est-ce qui nous manque ? Le montant du chèque inflation, la structure du chèque carburant et puis le niveau de dégel du point d'indice des fonctionnaires. Sinon, bouclier tarifaire maintenu, barème de l'impôt sur le revenu revalorisé au niveau des prix, prime Macron triplée, suppression de la redevance télé confirmée et les 18 centimes de ristourne par litre de carburant confirmé jusqu'à la fin août et qui s'éteindront ensuite en sifflet jusqu'à fin décembre.
Je voudrais juste savoir.
Je ne vous lance même pas sur un angle ou une question.
À quoi sert d'avoir des NAO, des discussions entre le patronat, les syndicats, par entreprise, par branche, puisque on attend l'État. Et puis quand l'État va donner son indice sur la totalité de tous les minima et la totalité des postes que vous venez d'énoncer comme un inventaire à la Prévert, il aura calé le niveau minimal des négociations acceptables. Et ça viendra se surajouter à tous ces chèques. Il y a un moment donné où...
Quand même, Léonidas, c'est plutôt rendre service au patronat que de limiter l'inflation lors de ces futures négociations. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces mesures, on ne serait pas à 5,2 d'inflation, mais on serait au-delà de 7. Hein. Et là, ce serait une pression supplémentaire pour les entreprises par rapport aux attentes salariales.
Écoutez, je ne suis pas totalement certain que toutes les entreprises qui vont ouvrir des négociations seront en mesure d'avoir des hausses de 4%, qui est à peu près l'équivalent sur lequel s'est calé désormais le débat. 4% pour des augmentations, avec en ligne de mire que l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés qui sont en poste va finir par devenir un frein à l'arrivée de nouveaux salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire que distribuer du pouvoir d'achat, c'est aussi embaucher. Et lorsque l'équation qui nous est annoncée par le président de la République sur l'ensemble de ces nouvelles dépenses est contrainte en disant il n'y aura ni impôt supplémentaire ni dette supplémentaire, ce qui est très sain, la seule manière de financer tout cela, c'est d'avoir de la croissance. C'est continuer à avoir de la croissance. C'est la seule manière. Donc pour continuer à avoir de la croissance, il faut aller vers le plein emploi. Et aller vers le plein emploi, c'est éviter qu'on fasse une barrière à l'entrée des nouvelles embauches en augmentant. Donc on est vraiment dans un moment où, effectivement, il ne faut pas se tromper. Or, je trouve que les effets d'annonce que nous avons anticipent très largement la réflexion qui serait nécessaire.
Bon, est-ce qu'on a... voilà, Xavier Rago, est-ce qu'on est en train de se tromper ?
On est au cœur d'un sujet extrêmement difficile, qui est la gestion de ce choc sur les prix des matières premières et le prix de l'énergie, auquel la France fait face et qui grève notre balance commerciale. Qui va payer ? Comment on fait ? Là, le choix qui a été fait par le gouvernement, en grande partie, c'est au moins d'utiliser la dette publique. Dans plein de leviers, en essayant d'être fin. Alors, ça donne une impression d'une liste à Prévert. C'est pas tout à fait ça. C'est essayer d'être précis sur toutes les niches pour jouer sur le loyer, jouer sur les carburants, jouer sur plein de choses, jouer sur les biens alimentaires, pour essayer de limiter, certes, le coût fiscal. Donc, ça, à chaque fois qu'on essaie de limiter, on est un peu précis dans les détails. Ça rend une impression de complexité. Mais la logique globale, c'est d'utiliser la dette publique pour réduire la dynamique des prix, de l'inflation et stabiliser le pouvoir d'achat.
Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de doute.
Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'il faut faire beaucoup ou peu ? Là, on verra l'ordre de grandeur, parce que tout n'est pas encore précisé. On verra le débat parlementaire, c'est qu'un projet de loi.
Donc je peux vous dire ce que les autres vont vouloir rajouter. Voilà, on voit. Le SMIC à 1500, la TVA à 5,5 sur les carburants, ce genre de choses.
Pour ma part, je pense que si, et c'est un gros si, parce que c'est ça l'inquiétude que je pense beaucoup de personnes, si jamais ces mesures sont effectivement temporaires, si on arrive à avoir une gestion temporaire, on peut limiter les pressions inflationnistes par une hausse temporaire modeste de la dette de 0,3 points de PIB. Hein, 7 milliards, c'est 0,3 points de PIB. Par rapport aux grandes masses qu'on a eues, c'est encore de la dette, certes, mais c'est absorbable. Parce que la dynamique de la croissance en 2023, spontanée, sans hausse des taux, va compenser ce coût budgétaire aujourd'hui. La question cruciale, et c'est une question plus, je dirais, pour ma part, plus politique qu'économique, c'est que ces mesures-là, il faut que les Français acceptent de comprendre que c'est un soutien temporaire pour absorber ce choc. Après, forcément, malheureusement, face à des prix comme cela, on est tous plus pauvres. Il n'y a rien à faire, on ne produit pas du pétrole, on ne produit pas du gaz. On est tous plus pauvres, donc il faudra que les pouvoirs d'achat baissent. Et on prévoit, nous, 0,8 plutôt que 1. Bon, c'est dans le trait de plume encore ces différences. Mais forcément, la France sera plus pauvre. Il faut une répartition juste pour préserver l'emploi pour les Français et la croissance pour les entreprises.
En tout cas, la baisse des impôts de production, la petite musique selon laquelle elle existera, mais peut-être étalée dans le temps, ça commence à s'installer, ça aussi. Philippe Martin, votre réaction par rapport à cette réponse politique à l'inflation, au choc de pouvoir d'achat, et puis quand même, la cote d'alerte. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous comprenez le terme cote d'alerte. Mais allez-y.
Le gouvernement est sur une ligne de crête avec en effet pas mal de contraintes. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas être trop négatif sur ce que fait le gouvernement. Alors, en effet, Xavier Rago l'a répété. En gros, c'est un choc qui fait qu'on paye au reste du monde 2 points de pourcentage de notre revenu. Donc la question, c'est qui paye. Donc on pourrait dire ça doit être entièrement les salariés et les ménages. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est moitié-moitié. Hein, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le gouvernement dit j'en prends à peu près, je sais pas, on n'a pas encore fait tous les calculs, je sais pas si l'OFCE.
On n'a pas de chiffrage pour l'instant.
Mais ça va être à peu près moitié-moitié. C'est-à-dire que il va y avoir une perte de pouvoir d'achat en gros de 1%. Donc vous voyez que ça signifie que l'autre partie, ça va être justement toutes ces mesures qui vont réduire la perte de pouvoir d'achat. Ce qui veut dire d'ailleurs que le salaire réel, ça veut dire que le salaire réel va baisser quand même. Le salaire réel va baisser.
Bah oui.
Donc on ne peut pas dire que de ce point de vue, les entreprises vont tout payer. C'est pas vrai. Alors les marges, les marges
payer,
sont en train de baisser, mais elles reviennent vers des niveaux en gros d'avant crise, c'est-à-dire des niveaux relativement élevés. Donc voilà, la question, c'est en effet comment partager entre l'État, les ménages et les entreprises, et à l'intérieur des ménages. Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il faut des mesures plus ciblées, et c'est pour ça que je suis plutôt favorable, en effet, à ce que les minima sociaux soient relevés, que ce soit retraite, salaire minimum, RSA, etc. Parce que je pense que quand même, ce sont sur ces personnes que pèse le plus l'inflation. Puis après, il va y avoir des mesures très ciblées à l'intérieur des ménages. La difficulté, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a des personnes pour lesquelles, en effet, prendre la voiture... c'est indispensable.
L'INSEE a fait d'ailleurs le distinguo entre les ruraux et les urbains.
C'est la première fois qu'on a des écarts de taux d'inflation entre ménages aussi importants, et on le comprend très bien, parce qu'en gros, ça dépend si vous avez une voiture ou pas, si vous vous chauffez au fioul, etc.
On comprend très bien ça, mais ce que disait Xavier, c'est que si c'est...
qui s'installe dans le temps... C'est très juste la question du temporaire.
Ou une baisse sur les plus généralement sur
la production énergétique.
Il faut que les mesures qui sont prises, en effet, ne deviennent pas des mesures permanentes.
Comment vous comprenez code d'alerte ? Bruno Le Maire, ce matin, sur BFM TV, parle de code d'alerte pour les finances publiques. Alors, code d'alerte pour les finances publiques, vous comprenez ça comment ? En pourcentage de dette par rapport au PIB ? En niveau d'emprunt pour le taux à 10 ans de la France ?
Le niveau d'emprunt, il est...
Enfin, le taux d'emprunt, le taux à 10 ans, quoi.
Non, mais le niveau d'endettement est à un niveau que jamais personne n'aurait imaginé.
Oui, mais je vais vous dire que les Japonais sont à 250...
Mais les taux sont en train de remonter, c'est-à-dire que l'épée de Damoclès qui est sur la tête de notre pays était vraiment dangereux. Il me semble que heureusement que le ministre de l'économie et des finances est dans son rôle.
Quand il y a une cote d'alerte, c'est qu'il y avait un avant où il n'y avait pas d'alerte, non, il y a un après où il y a une alerte.
Oui, parce que
et généralement c'est lié au niveau des taux.
En somme, il dit le quoi qu'il en coûte, quel que soit le sujet, est désormais une séquence qui est définitivement derrière nous.
Allez-y, Xavier Rago.
Moi, ma lecture de la cote d'alerte, c'est la chose suivante. Et votre référence au Japon est pertinente, mais à moitié. Alors, la dette publique, moi, je suis loin d'en avoir peur. Hein. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut dire qu'il faut envisager de réduire la dette publique. Et il faut commencer à y réfléchir, pas pour 2022, mais réfléchir collectivement pour 2023-2024, de placer nos structures de finances publiques vers une stabilisation, au moins une réduction douce de cette dette publique. Pourquoi ? Vous avez cité le Japon. Le Japon a 178. Ça c'est compliqué, la mesure de la dette publique japonaise.
Moi, j'avais 250%.
Oui, mais il y a des doubles comptes. Oui, c'est pas la dette maastrichtienne. C'est à peu près un peu moins de 200. C'est un détail.
En dette maastrichtienne, on va dire qu'ils sont en dessous de 200.
D'accord. Voilà, ils ont beaucoup de dettes. Le problème, je vais vous dire, pour moi, me semble-t-il, c'est la chose suivante. C'est comment être dans une même union monétaire avec un pays qui a 60% de dette publique qui s'appelle l'Allemagne, et un pays qui a 150% qui s'appelle l'Italie, et la France qui a autour de 116% aujourd'hui. Il y a un consensus au Japon pour faire avoir des taux bas, pour stabiliser les finances publiques, parce que c'est tout le pays qui est unifié. En une zone euro, avec une hétérogénéité d'aide publique, il y a une incertitude dont on parlait ce matin, additionnelle, sur l'orientation de la politique économique de la Banque centrale. Et donc peut-être que les taux vont augmenter un peu plus que ce qu'il faudrait pour la France et l'Italie, un peu moins que ce que voudraient les Allemands pour trouver un compromis, mais pour nous, on va quand même subir possiblement une hausse des taux qui va impacter...
Donc la cote d'alerte, c'est les hausses des taux.
Notre cause d'alerte, c'est la hausse des taux et le possible désaccord dans le Conseil du gouverneur de la Banque centrale sur l'orientation de la politique monétaire. Donc c'est cette incertitude de politique économique qui je pense, structure les débats français.
Mais je voudrais revenir sur un point qui est le point de l'équation. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Finalement,
on emprunte aujourd'hui, Léonidas. On emprunte et on va probablement étaler certaines baisses d'impôts qui étaient promises. Moi, j'en prends le pari.
Non, mais pardon, Nicolas, mais la question du financement et de la remise en ordre de nos comptes publics repose sur ce que nous avons expérimenté durant un an et qui, Dieu merci, est un peu une évidence pour tous les chefs d'entreprise, mais qui semble avoir été une découverte, c'est que quand on a de la croissance importante, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État et la croissance, c'est le meilleur remède à tous nos maux. La croissance est le meilleur remède à tous nos maux. Et donc, pour arriver à avoir de la croissance, il faut véritablement favoriser les entreprises qui vont investir,
donc
qui vont embaucher. Il faut une politique de l'offre. Et pour arriver à répondre à la levée des obstacles qui pèsent sur notre dynamisme et notre compétitivité, c'est vrai que les impôts de production sont un élément absolument identifié, documenté et ciblé sur lequel il ne faut pas renoncer. Et l'idée que ce n'est pas le moment et il faut remettre ça à plus tard, me semble être une idée qui est contradictoire avec l'équation qui a été posée. Si on veut avoir de l'argent à dépenser pour tout ce que l'on a à faire sans lever de l'impôt et sans créer de la dette, il faut de la croissance et donc il faut libérer davantage d'offres qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Pour l'instant, c'est une petite musique qui circule. Il n'y a pas de décision et d'annonce sur le fait que ces baisses d'impôts de production ne se feraient pas en une année comme prévu, mais étalées sur 2, 3, 4 ans. Bon, la cote d'alerte, Philippe Martin, comment vous l'entendez ? Parce que quand je regarde le 10 ans français, on est passé sous les 2%, on est monté jusqu'à 2,3. Donc j'ai envie de dire que concrètement par rapport aux jours précédents, il ne s'est pas passé un événement incroyable.
Non, mais je pense que d'abord Bruno Le Maire est dans son rôle
de
ministre des Finances de dire faisons attention, et là encore c'est toute la différence entre des dépenses publiques qui sont temporaires pour absorber un choc et des dépenses publiques permanentes. Après, ce qu'il va falloir regarder, ce qu'on sait, c'est que pour la dynamique de la dette et la soutenabilité de la dette, ce qui compte, c'est la différence entre le taux de croissance et le taux d'intérêt. Donc actuellement, c'est un peu difficile de voir où on en est là-dessus, mais à terme, le taux de croissance nominal et le taux de croissance nominal aussi. Donc si l'inflation revient à 2% et qu'on est à un taux de croissance de 1,5,
1,7... ça nous met à 3,5 en croissance nominale.
Voilà, donc il ne faut pas que les taux d'intérêt soient au-dessus de 3,5 en nominal. Et si c'est le cas, alors on peut avoir même un déficit primaire, c'est-à-dire hors paiement des intérêts, et la dette se stabilise. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut être très rigoureux, mais en même temps, je ne crois pas que ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'explosion de la dette ou de dette non soutenable.
Le code d'alerte, c'est le moment où le taux d'intérêt dépasserait, le taux d'intérêt nominal dépasserait la croissance nominale.
Et ça n'est pas le cas.
Non, ça n'est pas le cas.
Oui. Donc la question, c'est, encore une fois, la question essentielle, c'est la soutenabilité de la dette et c'est les paiements d'intérêt. Donc je pense qu'il faut absolument, en effet, stabiliser les dépenses, il faut réduire le déficit, de toute façon.
Oui, parce que c'est les deux, quand même. Et le déficit et la dette.
Bien sûr, mais vraiment, ce qui compte à la fin pour que la dette soit soutenable, c'est cette différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance.
Mais ça va ressusciter l'urgence de réformer les retraites, ou en tout cas dans le débat politique, il y a de grandes chances. Il n'y a pas de chiffrage pour l'instant de ce qui nous est présenté. On sait qu'en année pleine, l'ensemble des prestations sociales, y compris retraite, ce qui va se passer, c'est à peu près plus 17 milliards. Et après, vous ajoutez toutes les autres mesures sur chèque inflation, sur le bouclier, sur le chèque carburant, le point d'indice des fonctionnaires, c'est pareil. 1% de hausse du point d'indice, c'est quasiment invisible par agent, mais c'est 2 milliards d'un coup.
Oui, mais rappelez-vous qu'une partie de l'inflation fait aussi des recettes pour l'État.
Oui.
Donc, on tend à oublier qu'une partie de l'inflation, pas toute, et en particulier pas celle qui est importée du fait de l'augmentation des prix du pétrole, fait diminuer le niveau de dette en pourcentage du PIB.
On est d'accord.
Pas complète. Alors, c'est pas comme c'est de l'inflation généralisée.
C'est plus puissant quand c'est de l'inflation vraiment spirale interne.
Enfin, quand c'est de l'inflation qui n'est pas importée, ça a un impact qui réduit la dette publique. comme on l'a vu d'ailleurs en sortie de
guerre. Ah mais on est tous d'accord là-dessus.
Mais là, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est de l'inflation importée, et donc c'est un peu différent.
7% d'inflation en septembre, ça vous paraît possible, ça, Xavier Rago? Même si c'est très difficile de faire de la prévision aujourd'hui, c'est ce que nous dit vendredi l'INSEE, dans une note bizarrement parue en cœur de journée à un moment un peu inattendu. Comme si on n'avait pas voulu qu'elle fasse trop de bruit, quoi. Ça, c'est une espèce d'impression que j'ai.
Il faut qu'on voit attentivement la façon dont on inclut l'évolution des prix et des prestations éventuellement dont on parle, qui va influencer l'inflation mensuelle. Parce que si l'inflation mensuelle, c'est un élément. Si l'inflation sur la moyenne de 2022, nous, on est bien moindre encore, on se parle. On va voir l'évaluation de la loi pouvoir d'achat, si jamais elle est votée, ce qui est quand même probable. Il y a quand même un petit sujet là-dessus de la coalition politique qui va probablement financer le contenu, mais ça paraît un peu élevé. Mais on va voir.
Mais l'INSEE dit 7%, mais en effet, au mois de septembre, sur un an, sur 2022, c'est 5,5.
C'est 5,5 sur 2022.
Ils sont très proches de l'OFCE.
D'accord.
On va marquer une pause. Bon, j'ai cette question sur l'évolution de l'emploi là, après les chiffres, la publication des chiffres du travail intérimaire du premier trimestre. Mais surtout, oui, enfin. Parler de la consommation d'énergie.
Oui.
Et donc, il y a cette...
Parce que pour le moment, quand on subventionne la hausse des taux, la hausse des prix, c'est que quelque part, on subventionne le gaz et le pétrole que nous apportons. Et ça ne semble pas être totalement la priorité que j'entends depuis 3 ans sur le climat et sur nos objectifs énergétiques.
Et Jean-Marc Daniel allait même plus loin que vous ce matin. Il disait, c'est bien d'aller subventionner les prix de l'énergie. Donc, au moment où les choses sont compliquées pour nous et où on veut passer d'un monde à un autre, on vient enrichir les caisses de l'Arabie Saoudite.
De l'Arabie Saoudite. Et de la Russie, c'était pas forcément l'objectif premier.
On marque une pause, donc on va évoquer cet appel assez inédit, totalement inédit d'ailleurs, de Catherine McGregor, Jean-Bernard Lévy et Patrick Pouyanet pour une vraie chasse au gaspillage de manière immédiate et urgente.
Eh bien, il y aura des solutions.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Léonidas Kalogeropoulos, PDG de médiation et arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Philippe Martin, professeur à Sciences Po et président du Conseil d'analyse économique, président délégué, je crois qu'on dit d'ailleurs, membre du Cercle des économistes. Xavier Rago, président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui a notamment écrit « Civiliser le capitalisme » chez Fayard. Avant de parler sur la consommation d'énergie, Xavier Rago, si on disait il va falloir lisser la baisse d'impôts de production, parce qu'il y a un moment, il faut faire des choix, parce que la cote d'alerte...
Encore une fois, moi, je vais vous dire...
Ce que vous diriez,
Moi, j'achète, excusez-moi ce langage, moi, j'achète si jamais on lisse effectivement. C'est-à-dire que si jamais le gouvernement dit « c'est pas le moment, vu le choc, d'augmenter la dette, et je baisse transitoirement... » ce que j'avais prévu comme réduction d'impôts, c'est-à-dire que... Mais je m'engage à le faire sur 5 ans en sifflet, et qu'il est crédible pour le faire, je pense que ce serait une bonne politique, parce qu'on a besoin d'argent public pour gérer ce choc macroéconomique. Et il faut baisser les impôts de production, on sait que c'est une spécialité française, mais c'est vraiment la transformation, de l'investissement dans l'industrie, avec la formation, l'éducation, c'est un paquet global qu'il faut penser. Bien, ça, il faudrait le faire. Le problème, ça renvoie toujours au même débat, c'est l'engagement sur plusieurs années du gouvernement. Il faudrait qu'on arrive à avoir des politiques sur 3, 4, 5 ans dans lesquelles le gouvernement s'engage et qui nous donnerait de la profondeur temporelle qui nous permettrait de faire les bonnes politiques plutôt que de faire des à-coups. On le fait ou on le fait pas cette année, puis on reposera la question l'année prochaine. On a besoin vraiment d'un ancrage pluriannuel des finances publiques.
Dans votre schéma de long terme, vous mettez également une réforme des retraites ?
Je laisserai le débat démocratique s'exprimer sur le sujet.
C'est ça. J'ai confiance dans la justice de mon pays.
Un mot sur les impôts de production.
Oui,
parce qu'on a Philippe pas mal Martin. Travaillé au Conseil d'analyse économique sur ces impôts. Et en effet, ils ont un impact mauvais sur la productivité, sur la compétitivité.
Moi, vous aviez publié sur la C3S, je me souviens.
Absolument. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il aurait fallu éliminer la C3S plutôt que la CVAE. Parce que la C3S, c'est vraiment un impôt imbécile. C'est sur le chiffre d'affaires. Aucun pays de l'OCDE n'a d'impôt sur
un impôt imbécile, c'est vraiment très juste.
Et donc c'est une taxe sur les exportations et une subvention aux importations, c'est ce qu'on montrait. La deuxième chose, c'est que si on le fait, si on lisse la baisse, il faut pas faire justement ce qu'on avait fait, ce que le gouvernement Hollande avait fait sur la C3S, c'est-à-dire commencer par les petites entreprises et ensuite les grandes. Parce qu'on sait ce qui s'est passé, c'est qu'on s'arrête à un moment. C'est-à-dire que c'est pas populaire de baisser les impôts sur les grandes entreprises. Mmh. Et donc, du coup, on fait les petites entreprises, mais à un moment, ça cale petit uniquement. Donc il ne faut pas faire ça, parce que je vous rappelle que les gros exportateurs, les exportations, c'est les grosses entreprises. Donc si on veut rétablir la balance commerciale, il ne faut pas faire que des choses sur les TPE et les PME.
Ils s'appellent Catherine McGregor, Jean-Bernard Lévy, Patrick Pouyanet, respectivement les patrons d'Engie, EDF, Total Energy. Ils lancent un appel commun dans le JDD. Il s'agit d'inciter les Français à faire des économies d'énergie sans attendre. Ils parlent de réduire immédiatement notre consommation de carburant, de pétrole, d'électricité, de gaz. Effort immédiat, effort collectif, effort massif. Je ne sais pas si vous avez une réaction globale alors, à cette prise de parole très inattendue quand même.
Non, mais je pense d'abord que cette prise de parole, elle est salutaire parce que elle appelle à la responsabilité et elle met l'accent sur l'absolue nécessité de baisser notre consommation énergétique et pas uniquement d'essayer de trouver une espèce de martingale fiscalo-budgétéro, je ne sais quoi, pour arriver, comme par magie, à vivre exactement comme avant en payant moins. Donc il y a à un moment donné où quelque chose doit se passer. Mais toujours dans ces cas-là, c'est pas mal de demander aux entreprises s'ils ont des solutions. Si elles ont des solutions, je vous en donne une parce que elle est sur la plateforme d'entrepreneurs pour la République depuis la semaine dernière. C'est une solution qui s'appelle Garotech, développée par une entreprise qui s'appelle Gachimie, qui est un des leaders de la distribution chimique français, et qui met de l'ozone dans les laveries industrielles et l'ozone dans l'eau permet de nettoyer toute l'efficacité des laveries industrielles sans chauffer l'eau. Et donc, vous économisez tout le chauffage grâce à un appareil qui est amorti dès le premier mois de sa location. Et vous vous passez totalement de tout le gaz qui, traditionnellement, ils en ont déjà équipé 600 laveries industrielles. Et par machine, c'est 1 million de tonnes de CO2 économisées par an. Et donc, vous multipliez ça par le nombre de laveries industrielles que vous pouvez avoir. Et à la limite, vous le généralisez en Europe. Et c'est une économie, mais tellement invraisemblable en termes de masse, que on se dit finalement, est-ce que ce n'est pas vers des entreprises qui ont des solutions comme celle-là qu'il faut se tourner, plutôt que de compter sur la délibération démocratique pour trouver la taxe miracle.
Mais question de taxe pour l'instant.
Hein. Non, il n'est pas question
on
de taxe.
On est justement en train de, de faire baisser les prix ou en tout cas d'éviter que le signal prix se manifeste.
D'accord, ou la subvention miracle. Mais en tout état de cause, je trouve que l'incitation à trouver des solutions de cette nature qui vient en rapport avec les prix qui augmentent, finalement, ça sert à ça, les prix qui augmentent. Ça sert à dire que ça devient intéressant de trouver des innovations qui permettent d'économiser l'énergie. Mais bien entendu, je crois que c'est un vieux slogan, que l'économie la moins chère, c'est celle qu'on utilise. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas.
Oui.
Et il est temps, effectivement, que nous soyons collectivement devant cet objectif vital.
Bon, comment vous avez entendu, reçu cet appel, Xavier Rago, Philippe Martin, de la part des trois ténors, j'ai envie de dire, de l'énergie en France? Philippe, vous êtes dit, passe quelque chose, il y a probablement un phénomène d'urgence. On se souvient de ce que disait l'Allemagne la semaine dernière avec la quasi-conviction que eux ne passaient pas l'hiver. En termes d'énergie.
On a déjà une très forte augmentation des prix du gaz et du pétrole parce que les marchés anticipent en effet qu'il va y avoir des disruptions, qu'il va y avoir des embargos dans le futur. Une partie de l'augmentation des prix vient du fait que il y a cette anticipation sur un embargo futur.
Ce qui donc veut on n'a peut-être pas touché le plafond des prix, que ce soit sur le pétrole
certainement pas.
Alors, je
rappelle que là, au G7, il y a une discussion maintenant sur un possible price cap, un plafonnement des prix du pétrole qu'on paierait à la Russie. Il y avait eu des discussions, et d'ailleurs, la Commission européenne est en train de faire un travail technique sur la possibilité aussi de faire un plafonnement des prix du gaz payé à la Russie. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que les sanctions énergétiques qu'on a fait contre la Russie, qui sont quand même à l'origine de tout ça, de toutes ces discussions, ont quand même été un échec. C'est-à-dire que si on regarde les ressources budgétaires de la Russie qui viennent complètement des exportations, elles ont augmenté de 30%. D'accord ? Donc on paye plus cher aujourd'hui. Donc les sanctions, elles ont eu pour effet, les sanctions énergétiques, elles ont eu pour effet, parce qu'on annonce des choses et donc ça fait augmenter les prix, mais on ne fait rien au moment de l'annonce. concrètement, il y a toujours des exportations de gaz et de pétrole russe vers l'Union européenne. Et donc, on fait augmenter les prix immédiatement par des effets d'annonce. On dit qu'il va y avoir un embargo sur le pétrole dans 6 mois, ce qui fait augmenter les recettes budgétaires pour la Russie, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on voulait. Et ça a un coût très élevé immédiat pour l'Europe. Donc, moi, je pense qu'en effet, il faut reprendre la main. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une situation de réaction passive par rapport aux Russes sur cette question énergétique. Et donc, je suis assez favorable à réfléchir, par exemple, à un single buyer, c'est-à-dire un acheteur unique par rapport à la Russie. Il faut reprendre du pouvoir de marché. Enfin, je veux dire, c'est évident que la Russie manipule les prix et peut-être, en effet, un plafonnement de prix. Mais il faut le faire avec tous les Européens, avec les Américains, avec les Japonais. Donc, je pense que, de ce point de vue, c'est en train de se passer au G7, par exemple, ce qui est aussi en train de se passer sur les sanctions, sur les assureurs. Parce que, évidemment, c'est très important de segmenter le marché. Il ne faut pas que la Russie puisse aller revendre son pétrole ou son gaz ailleurs. Donc, il faut reprendre la main. Il faut avoir, il ne faut pas être naïf par rapport, évidemment, aux Russes. Mais, en effet, pour être crédible, il faut avoir des mesures de rationnement sur la table. Et c'est ce que font les Allemands. Apparemment, c'est ce qu'on fait aussi en France. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra dire qui est rationné s'il n'y a plus de gaz. Et on commencera évidemment par les entreprises. Et ça se termine. Et c'est les ménages qu'on coupera en dernier. Mais il faut le mettre sur la table. Il faut dire, et je pense que dans le débat public, il faut dire qui on va rationner d'abord, comment on va le faire, etc. Il faut qu'on comprenne en effet que l'hiver va être difficile.
Alors après, est-ce qu'il faut continuer à subventionner des prix, casser le signal prix en espérant que la consommation se régule et que les comportements changent?
Parce
que est-ce que la consommation
baisse? Les prix sont déjà très élevés.
Il y a un signal prix, il est déjà élevé.
Le signal prix est déjà très élevé, mais c'est pour ça que je disais surtout ne pas baisser la TVA et les impôts sur l'énergie.
Xavier Rago, par rapport à ça, si vous voulez ajouter quelque chose.
Deux choses. Effectivement, les prix sont élevés. Je pense qu'il faut qu'on le répète parce que sinon nos auditeurs ne vont pas comprendre. Ils devraient être encore plus élevés. Vu la situation internationale, mais là ils sont déjà élevés et donc je pense que les incitations pour faire les innovations, les entreprises et faire les économies d'énergie, aller vers la sobriété sont quand même assez présentes. Là, ce qu'a dit Philippe Martin est très important, on n'en discute pas assez. Maintenant, il faut penser le prix que l'on paye pour le gaz et le pétrole comme des objets aussi politiques parce qu'on est en train de subventionner une puissance qui mène la guerre en Ukraine. Et là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de subventionner subventionner le budget russe pour des montants de plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est un non-sens. C'est un non-sens économique, mais politique. Je pense que Poutine se disait, les Européens, ils sont pas bêtes pour faire des sanctions qui me rendront plus riche et les rendront plus pauvres. Et finalement, on le fait quand même. Bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à trouver une coordination des Européens sur le gaz. Sur le gaz, c'est peut-être plus facile une coordination européenne et internationale sur le pétrole pour avancer sur ce sujet-là avec les pays qui sont les plus moteurs sur le sujet. Je pense que c'est essentiel. Et après, on parlera de tarifs, de taxes, prix maximum, les outils économiques. Il faudra aussi que ce soit compatible avec le droit international. Donc, il y a des petites choses à se réfléchir. Mais déjà, il faut la volonté politique.
C'est terrible cette histoire de sanctions contre la Russie, parce qu'effectivement on se rend compte que c'est nous qui payons en fait les sanctions qu'on a imposées aux Russes, et en même temps est-il possible de ne rien faire?
Il y a d'autres manières de faire.
La forme des sanctions, c'est-à-dire annoncer qu'on va faire un embargo dans 6 mois et ne rien faire aujourd'hui, ça fait augmenter immédiatement le prix. Et donc c'est ça qui fait qu'on paye plus cher et qu'on verse davantage d'argent aux Russes.
Et d'ailleurs, même tactiquement, passer son temps à annoncer ce que l'on va faire demain, c'est pas forcément militairement la meilleure manière de faire. Enfin, je veux dire, on ferait mieux de se préparer et de le faire du jour au lendemain, alors que Poutine n'hésite pas, bien entendu, en 48 heures, à couper le gaz à tel ou tel. Donc effectivement, nous, on dirait qu'on gère davantage la communication et l'opinion publique chez nous pour dire qu'on fait quelque chose. Mais comme le dit très bien Philippe Martin, on ne le fait pas tout de suite. Donc les mois que nous avons entre le moment de l'annonce et le moment de l'exécution, c'est des mois ruineux pour nous et très enrichissants pour la puissance attaquante.
Xavier Rago,
Un point, je pense qu'il faudrait trouver les moyens dès aujourd'hui, sans être catastrophiste, de mettre dans le débat public des scénarios soit d'un embargo, soit d'un arrêt unilatéral de fourniture du gaz par les Russes, et qu'on voit comment, dans cet état du monde catastrophiste, mais néanmoins possible au moment où on se parle, on se prépare. Et là, la sobriété, ce ne sera pas des petits détails, ce sera des choses importantes en termes de réduction du chauffage, d'arrêt possible de certains événements sportifs, d'arrêt de certaines entreprises. Enfin, je pense qu'il faut, Européens, qu'on se prépare à des éléments très catastrophistes dans notre quotidien, s'y préparer dès aujourd'hui pour l'été à venir, enfin pardon, l'hiver à venir et peut-être le début de l'année 2023.
C'était Guy Mollet en 56, hein, après la crise de Suez. Il est président du Conseil et Jean-Marc Daniel rappelait qu'il en appelle d'abord au civisme. Et si le civisme ne suffisait pas, on passait au cynisme. Et on est passé au cynisme, hausse des prix des carburants à l'époque, et, ticket de rationnement. Hein,
je ne vois pas, ça manque de planification, entre guillemets, hein, au sens quasiment militaire du terme de cet objet-là. Il faut se préparer.
Mais il faudra des règles de rationnement. Enfin, les Allemands les ont mis sur la table, hein, et on sait qui sera coupé en premier. Et Bercy, on le sait, travaille évidemment sur le sujet. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut reprendre l'initiative. Aujourd'hui, c'est Poutine qui a complètement l'initiative sur à la fois les quantités et les prix des exportations. Donc c'est pour ça que même si on n'aime pas en général les gels de prix, il faut évidemment, vis-à-vis de Poutine, par exemple, moi je pense qu'un price cap sur les prix du gaz, et il est possible en plus, hein, puisque les contrats gaziers avec la Russie, c'est des contrats à long terme, c'est ce qu'on appelle des contrats take or pay, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez payer ce que vous avez commandé, donc vous ne pouvez pas réduire les quantités, mais en revanche, le prix, il est indexé sur le prix spot, et rien n'interdit de dire que le prix spot, il ne peut pas aller, aujourd'hui on est à 120, 130 euros mégawattheure, on pourrait dire, il ne pourra pas aller au-delà de 120, et ça déjà, ça fait baisser les prix, parce que déjà, si on dit au marché, de toute façon, ça ne peut pas aller au-delà de 120, le prix peut déjà baisser aujourd'hui, puisqu'il y a une partie de la spéculation ou des achats qui sont liés au fait que peut-être demain, il sera à 200, 250. Mais pour ça, il faut être crédible, c'est-à-dire, il faut dire, en effet, s'il y a une demande excédentaire, eh bien, il y aura du rationnement. Et on va vous dire comment on va rationner les fournitures de gaz.
On a un plan en France, hein, qui s'appelle EcoWatt, qui est piloté par RTE, où il y a les différentes étapes jusqu'au blackout, effectivement, lorsqu'on a des problèmes de
fournitures. C'est les ménages qu'on coupe en dernier.
Ce sont les ménages qu'on coupe en dernier. Alors, il y a d'autres mesures qui sont en train d'être évoquées. Par exemple, décaler les horaires de début de journée et de fin de journée pour éviter les pics de consommation du matin, les pics de consommation du soir. Recourir au télétravail massivement. On a observé que c'était une assez belle économie d'électricité.
Baisse de la vitesse des voitures sur les autoroutes.
Ah oui, mais ça, si vous faites ce choix politiquement...
C'est un gros effet. Ouais. L'Agence internationale de l'énergie...
Je me souviens très bien.
...qui a toute une
batterie de choses.
Batterie de choses qui sont très claires, et à chaque fois, ils disent ce que ça donne. Hein.
C'est colossal.
Donc, mais effectivement, ça repose des sujets que l'on connaît. La question des transports dans les zones rurales est une question d'un déséquilibre face au travail qui est majeur. Dans nos grandes agglomérations, en Île-de-France, on a des transports en commun. Il est abordable, aisé. Enfin, en tous les cas, on a des solutions. Lorsque l'on est dans une grande partie du territoire, aller travailler, c'est très difficile de le faire sans recourir à sa voiture. Et face à cela, il y a probablement aussi une réflexion essentielle à avoir, que l'on soit en période de guerre ou pas.
Xavier Rago, la récession est-elle la seule solution pour sortir de cette période d'inflation ? Les marchés semblent convaincus aux États-Unis que la Fed va aller jusqu'au bout du bout, qu'elle va faire entrer l'économie américaine en récession. D'ailleurs, c'est une piste qui était quasi défendue par Mathilde Lemoine de chez Rothschild, qui écrivait dans Les Échos vendredi qu'il fallait monter les taux, que c'était une bonne nouvelle, que la Fed a raison de freiner l'inflation, car il faut rétablir la vérité des prix, quitte à pousser jusqu'à la récession. Et c'est ce matin, dans les colonnes de l'Opinion, où le chef économiste de Carmignac, Raphaël Gaillardot, nous dit « La Fed n'est plus l'ami des marchés. Ils sont en train de le comprendre. » Et c'est une vraie question. Est-ce qu'il va falloir aux États-Unis, et peut-être pas qu'aux États-Unis, aller jusqu'à la récession ?
Pour moi, c'est un échec intellectuel si on ne peut pas faire autrement. Alors, deux choses. Déjà, les taux vont augmenter parce que l'inflation augmente. Bon, ça, c'est normal et c'est souhaitable. Ils augmentent moins que l'inflation, d'ailleurs. Donc, les taux d'intérêt réel
baisse, reste négatif, oui.
C'est normal. Donc, par exemple, la Banque centrale fait des hausses des taux, tout ça, c'est normal. La question suscitée par ce débat, est-ce qu'il faut que les taux augmentent beaucoup plus que l'inflation pour augmenter le coût d'accès au crédit et stopper la consommation, stopper l'investissement et faire que la demande d'activité réduise, ce qui va peser négativement sur l'activité et donc sur les prix. On est en train de dire que pour geler la dynamique inflationniste, on va détruire des ressources dans l'économie. C'est ça une récession.
Oui, c'est ça une récession.
Alors qu'on a besoin de cet argent pour rembourser la dette publique. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus intelligent? Et c'est un débat dans les économistes. Et de dire, plutôt que de tuer l'activité en augmentant les taux et de gâcher des ressources, c'est peut-être le moment d'utiliser, de ralentir l'économie en trouvant un moyen de ralentir la demande en prenant de l'argent pour réduire la dépense publique. C'est le moment, et je sais que mon discours va paraître scandaleux par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est le moment aux États-Unis d'augmenter les impôts. C'est le moment aux États-Unis d'augmenter les impôts pour réduire la dette publique et calmer l'activité de l'économie, non pas en rationnant le crédit, mais en rationnant l'activité par les impôts. Et ce discours, c'est tout ce que un économiste dans son bureau, c'est ce qu'il ferait. Mais le débat politique complètement coincé, complètement hystérique sur la question des impôts, parce que là, je dis une hausse d'impôts temporaire. Hein, vous voyez, toujours cette notion de temporalité. Nous avons temporaire pour calmer l'économie et après on baisse les impôts quand on revient à 5% d'inflation. On utilise.
On a 7 minutes 50, vous
on utilise. Réagir, hein. C'est le moment d'utiliser l'outil fiscal pour atteindre deux oiseaux avec la même pierre, un, ralentir l'économie et deux, réduire la dette publique. Le blocage politique fait que. Alors, dans le débat, il y a eu Blanchard, il y a eu Furman.
Hein.
Oui, les États-Unis. Mais voilà, moi, je vais sur les États-Unis parce qu'on anticipe le débat européen. Donc, Blanchard, Furman, etc., c'est un peu dans le débat. Mais le blocage politique, le blocage, on voit aux États-Unis entre républicains et démocrates, fait que ces débats-là, avec l'hystérisation sur certains sujets, notamment sur les impôts, ne passera pas. Donc, peut-être dans le monde terrible dans lequel on est, on va créer du chômage, on va détruire des ressources dans l'économie pour contrôler l'inflation avec l'outil qui est peut-être pas le bon dans la situation dans laquelle on est.
Ah, c'est un sacré débat que vous ouvrez là.
Oui,
je l'avais pas posé dans ces termes. Parce que, après, bon, on peut dire qu'on parle des États-Unis et que chez nous c'est différent. Il y a quand même souvent quelques effets caméléons de ce qui se passe aux États-Unis. Ça peut quand même s'exporter parfois à 5000 km, traverser l'océan et se prendre corps chez nous.
Mais je trouve ça.
Leonidas Kalogeropoulos.
Je trouve très intéressante l'approche de Xavier Rabault sur la temporalité des mesures, qui me semble être la bonne approche, avec juste une difficulté que vous avez évoquée, qui est une difficulté politique. C'est que généralement, quand on a des taxes temporaires, on a connu des taxes temporaires, vous les connaissez comme moi, elles deviennent éternelles. Mais la question de capacité à venir piloter l'économie en ayant des mesures qui, notamment, sur l'inflation, mais celle que vous évoquez sur la fiscalité me semble effectivement assez intéressante au regard de ce que serait l'autre hypothèse qui est d'augmentation des taux. Je ne vois pas encore la maturation politique pour accepter qu'il puisse y avoir 6 mois d'augmentation d'impôts alors que c'est probablement des mesures de cette nature qui pourraient avoir un impact. Mais je trouve ça très intéressant et je trouve que si on pouvait avoir un débat politique sur ces approches temporelles, ça serait très précieux.
C'est vrai que le temporaire, quand on parle de ce genre de choses chez nous, c'est plus compliqué.
Oui,
les Allemands avaient dit on va baisser temporairement la TVA et ça a été temporaire. Ils l'ont monté à la date prévue. D'ailleurs, ça n'a pas eu du tout les effets espérés, comme quoi ces baisses de TVA pour rendre du pouvoir d'achat, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pour ça que je suis toujours un peu inquiet quand je vois toutes ces mesures qu'on est en train de mettre en place, inflation, loyer. Regardez, prenez un exemple. Le ticket de métro, il est subventionné à 75%. Vous croyez qu'aujourd'hui, on pourra remettre la vérité du prix sur le ticket de métro ? À mon avis, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Comment vous entendez cette question d'appuyer sur la politique monétaire jusqu'à prendre le risque de la récession, ou même la souhaiter, et la façon dont Xavier Rabault voyait les choses différemment ?
Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, il faut se rappeler qu'une des raisons de l'inflation aux États-Unis, c'est qu'on a eu un stimulus fiscal très important sous Biden, quasiment 10 points de PIB. Et c'est d'ailleurs une partie de ce qui explique la différence d'inflation aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire qu'eux, ils ont on se plaignait tout à l'heure qu'il y a trop de dépenses publiques ou de stimulus en Europe, mais aux États-Unis, ça a été bien plus. Hein, et donc, ça a été le débat lancé en particulier par Larry Summers et Olivier Blanchard en disant on va trop loin quantitativement. Il fallait faire une sous Covid, il fallait faire cette relance fiscale, mais on allait trop loin. Le débat en Europe est quand même un peu différent. Et là, l'inflation en Europe, elle vient pas du fait qu'on a un stimulus fiscal trop important, elle vient complètement de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la question énergétique. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on a quand même un débat intellectuel un peu étonnant. C'est-à-dire qu'en Europe, en particulier, si on pense, la politique monétaire s'occupe de faire du budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la réduction des spreads pour permettre une politique budgétaire, enfin réduire le coût de la politique budgétaire. Et la politique budgétaire, en faisant ses rabais, etc., etc., essaye de diminuer l'inflation. C'est-à-dire qu'on a totalement renversé les outils de politique macroéconomique où normalement c'est la politique monétaire qui s'occupe d'inflation et la politique budgétaire qui s'occupe de croissance, et là c'est maintenant exactement l'inverse. Donc je pense que il faut qu'on revienne à une manière peut-être un peu plus traditionnelle de faire les choses. Alors peut-être que dans une situation exceptionnelle on peut inverser les rôles de la politique budgétaire et de la politique monétaire, mais je trouve que ça pose quand même pas mal de questions de là où l'outil est le plus efficace. Et aux États-Unis, je pense quand même, alors c'est là où je suis peut-être en désaccord avec Xavier, je pense quand même que la politique monétaire, elle doit en effet se concentrer sur la question de l'inflation, et donc il doit y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Si elle est suffisamment crédible, ça signifie qu'il n'y aura pas de récession qui sera créée du fait de l'augmentation des taux, parce que justement, on va avoir une baisse rapide du taux d'inflation et des anticipations en particulier d'inflation.
Mais ce serait le pari de la récession express.
Oui, ou même d'une augmentation des taux qui n'aurait pas d'impact trop important sur l'activité. À ce stade, moi, je crois que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'économistes et de conjoncturistes qui pensent qu'on va avoir du mal à éviter une récession aux États-Unis. Et ce qui est vrai, c'est que s'il y a une forte récession aux États-Unis, l'Europe aura du mal à y échapper, parce que il y aura le choc américain, le choc de l'augmentation des taux à long terme en Europe, le choc évidemment de l'augmentation des prix de l'énergie, il y a un choc chinois aussi. Tout ça mis bout à bout, je pense que ce sera difficile de ne pas avoir un effet de contagion en Europe.
Xavier Rago, vous qui rappelez ce matin que si on écarte l'acquis de croissance de l'année 2021, celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux, en glissement annuel, elle est à peu près autour de 0 ou de 0,5.
Voilà, c'est vrai. C'est pas une récession, mais c'est de la stagnation.
Allez-y, Xavier Rago, on a une minute trente, là, ce sera vraiment
très,
pour conclure.
Très vite. Je pense que notre génération d'observateurs, il faut qu'on apprenne de la politique économique de ces grandes crises. Et moi, il y a quelque chose que j'ai appris. Quand j'ai vu ce stimulus américain aussi élevé, 10 points de PIB, j'ai dit, je le pensais, c'est pas grave, arrosons de liquidités, grandes incertitudes crise Covid, les ménages auront de l'épargne, l'État sera endetté, il y aura une croissance d'après-crise si on fait trop, il y aura de l'inflation, ça va réduire la dette sur PIB, et si on a trop, on pourra toujours récupérer de l'argent avec des petites hausses d'impôts futures qui permettront de se désendetter et de calmer l'économie. Ça, c'était mon scénario qui faisait que finalement, trop, c'était pas trop grave. Là, je me suis trompé. C'est qu'on n'est pas capable de faire cette hausse d'impôts après. Et donc, on peut utiliser un outil, encore une fois, inapproprié, qui était la politique monétaire, et on va créer, sur le soft landing, le scénario, c'est possible, si jamais vraiment, ils arrivent à augmenter les taux juste ce qu'il faut pour éviter une récession. Malheureusement, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, on va voir. S'ils y arrivent, chapeau. Mais là, on peut très bien faire 1, 2, 3% de taux de chômage en plus, distribuer des ressources, faire augmenter le ratio dette sur PIB pour des mauvaises raisons. Donc, peut-être qu'on a fait trop avant. Et donc, pour la crise future, il faudra bien calibrer les mesures de soutien à l'économie pour ne pas trop en faire.
Tirons les leçons de ce que nous vivons. Le mot de la fin, c'est fini, Léonidas.
Volontiers, un mot. Toutes ces mesures que l'on a annoncées sur l'inflation, soit, mais il y a tellement d'offres d'emploi non pourvues. Tellement de déséquilibre constaté sur le fait que nous n'ayons pas atteint le plein emploi alors qu'il y a des emplois vacants, que si on n'a pas, en même temps que toutes ces mesures, des mesures d'incitation au retour à l'emploi, globalement, je crois que nous allons dans une mauvaise voie parce que on a l'État qui vient au secours de l'économie et des acteurs économiques alors qu'ils ne se prêtent pas suffisamment en main.
Léonidas Kalogiropoulos, Philippe Martin, Xavier Rago, rendez-vous demain à 9h.